affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Aimez-vous le vert ? Quelle que soit votre réponse, elle ne m'aidera toutefois pas beaucoup à cerner votre personnalité. Je ne saurais pas si vous célébrez ainsi l'espoir ou la crainte ou la colère. Êtes-vous vert de rage, vert de peur, vert comme un jeune homme, vert comme une fée ou une sorcière ? Le vert signifie-t-il pour vous la vigueur de la jeunesse ou plutôt la déchéance de la putréfaction, la douceur d'un verger médiéval ou les interdits d'un programme écologique, un feu vert plein de licences ou la morale islamique? Vous l'avez compris, le vert est une couleur ambivalente, ambiguë, contradictoire comme la vie, et c'est ce qui fait tout son intérêt, et c'est ce que nous allons découvrir en compagnie de Michel Pastoureau. Michel Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Michel Pastoureau, vous êtes ici parce que, comme vous me l'aviez confié, le vert est votre couleur préférée, mais surtout, bien sûr, car vous avez publié, voici quelques années, un formidable ouvrage qui prend place dans, d'ailleurs, tout un édifice de recherche sur l'histoire des couleurs. Nous avions déjà eu l'histoire du noir et du bleu. Nous avons maintenant l'histoire du vert. Vous êtes historien, spécialiste des couleurs, des images, des symboles, membre correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et nous allons donc explorer durant une petite heure l'histoire de cette couleur ambiguë, ambivalente et incertaine aussi, dites-vous. Comme il s'agit d'une histoire, nous avons convenu de progresser de façon chronologique, même si on ne s'interdira pas, bien entendu, de faire des bons. Commençons par le vert dans l'Antiquité, où j'ai découvert qu'il avait une place bien moindre qu'on aurait pu l'imaginer, notamment par exemple en pensant, je sais pas, au poème de Virgile, par exemple.
Oui, le vert est discret dans l'Antiquité classique. Plus en amont, il est encore plus discret. Si on prend les couleurs de la proto-histoire ou de la préhistoire, du moins telles que nous pouvons les connaître, dans la palette des peintures pariétales, pas de bleu, pas de vert. Dans les premières teintures, pas de bleu, pas de vert. Donc le vert, omniprésent dans la nature, fabriqué par l'homme, est une couleur plus récente que le rouge, le jaune, le blanc ou le noir. Et chez les Grecs et chez les Romains, il est relativement discret dans la vie quotidienne et même dans le monde des symboles. C'est au point que, dans la seconde moitié du XIXe siècle, un certain nombre de savants, des historiens, des archéologues, des philologues et même des neurologues se sont demandé si les Grecs n'étaient pas aveugles et au bleu et au vert, tant ils nommaient rarement ces deux couleurs, notamment dans des domaines où on serait attendu à les entendre nommer, elles sont absentes. Le lexique, d'ailleurs, des bleus et des verts existe en grec ancien, mais il est un peu chaotant. Il n'y a pas de terme de base, il y a plusieurs mots dont la signification est relativement imprécise. Et alors, il y a eu tout un débat qui a duré pendant presque trois générations, jusqu'à la Première Guerre mondiale, pour se demander si l'œil des Grecs n'était pas plus en avance dans la gamme des rouges ou des jaunes, et plus en retard dans celle des bleus et des verts. Les polémiques ont été très ardentes, c'est un dossier historiographique passionnant aujourd'hui à étudier, et les positions extrêmement tranchées, d'autant que la science germanique s'en est mêlée, et même plus tard, l'érudition à l'époque des nazis, soulignant que les barbares germains, eux, n'avaient aucune difficulté pour voir et nommer le vert, donc ils étaient en avance sur les Grecs, leur culture et leur anatomie étaient plus développées, etc., etc. Vous voyez ce que l'on a pu dire.
Si vous me permettez, je voudrais citer un court passage de Nietzsche qui évoque cette question, qui n'a rien à voir avec ce que vous venez d'évoquer, mais qui est assez éclairant sur ce débat. Vous voulez bien ?
Volontiers.
Donc, Nietzsche, en 1881, écrivait ceci. « Les Grecs voyaient la nature de façon différente de nous. Leur œil, il faut bien l'admettre, était aveugle au bleu et au vert. Au lieu du bleu, ils voyaient un brun sombre, et au lieu du vert, un jaune pâle. » En outre, il désignait par un même terme la couleur des plantes les plus vertes, celle du miel et celle de la peau humaine. Combien la nature devait leur sembler différente de la nôtre ? C'est probablement pourquoi les premiers grands peintres grecs n'ont utilisé pour la peindre que du noir, du blanc, du rouge et du jaune. L'explication a certes fait sourire aujourd'hui. Toutefois, il est néanmoins vrai qu'à la fois dans le lexique et dans la peinture ou le vêtement de cette époque, le vert est assez absent.
Le vert est rare, imprécis ou absent. En effet, les termes qui veulent dire vert, en grec ancien, prasinos par exemple, plutôt vert foncé, glaucos, vert tirant vers le bleu ou le gris, chloros, vert tirant vers le jaune, désignent tous des teintes relativement peu saturées et qu'on a du mal à situer sur un spectre, nous, à l'époque moderne. Alors, ces débats ont duré longtemps. Nietzsche, dans cette phrase, il est de son temps, finalement, et il est partisan de ceux qui pensent que les Grecs sont relativement aveugles au vert et au bleu. Mais on a fini, un peu avant et un peu après la Première Guerre mondiale, par souligner que, dans une société donnée, ça n'est pas parce qu'on ne nomme pas une couleur qu'on ne la voit pas. Les problèmes sont différents, ceux du lexique d'un côté, ceux de la société et de son imaginaire de l'autre. Je me souviens avoir lu un compte-rendu de quelqu'un dont j'ai oublié le nom, mais c'était un membre de l'Institut, qui soulignait que dans les fables de La Fontaine, le mot bleu n'est jamais écrit. Est-ce que ça veut dire pour autant que La Fontaine ne voyait pas le bleu ? C'est un argument qui porte. Non, je crois qu'il faut souligner que le bleu et le vert jouent un rôle faible chez les Grecs, à la fois dans la vie quotidienne, dans la culture matérielle, et dans l'univers des symboles. Et il en va un peu de même pendant longtemps chez les Romains, même si, à l'époque impériale, chez les Romains, sous l'influence d'ailleurs de modes barbares, le vert acquiert une plus grande importance.
Oui, mais on découvre dans notre ouvrage que le vert est, lui, nommé dans le latin, qu'on lui donne déjà un certain nombre d'attributs assez proches de ceux qu'on peut lui donner aujourd'hui. Le vert, ce qui est de la vigueur.
C'est la racine peut-être du mot viridis, le terme de base pour dire vert en latin classique, qu'on peut rattacher à une famille de mots qui évoque en effet la sève qui monte, la vigueur, la force, la vie même, tout simplement. Donc il y a une place pour le vert chez les Romains, en tout cas plus grande que chez les Grecs. Et puis il y a des modes qui apparaissent en plusieurs phases à partir du 1er siècle de notre ère, notamment pour les matrones romaines, des robes vertes, au grand scandale des vieux Romains. Pline qualifie ces couleurs nouvelles, on est vers 60-70 de notre ère, de « colores floridi ». Couleur non pas fleurie, mais frivole. Il est scandalisé. C'est un réactionnaire. Et puis au IIIe siècle, alors, ce sera un océan de modes vertes et bleues. C'en est fini des couleurs classiques de la Rome antique, non seulement pour le vêtement féminin, mais aussi pour le vêtement masculin.
Parce que le vert est vu comme une couleur quoi, orientale, barbare.
Barbare, presque immorale, indécente, contraire aux habitudes romaines où triomphe dans le vêtement le blanc, le rouge, tous les rouges, le jaune, tous les jaunes, et puis un peu de couleur foncée, des violets, des noirs, des bruns, éventuellement des gris, mais vert et bleu ne sont pas absents, mais sont rares et sont réservés en général aux esclaves ou aux populations vivant sur les marges de l'Empire.
Alors, en revanche, il y a un empereur qui a apprécié particulièrement le vert, semble-t-il, c'est Néron.
Néron qui fait scandale en ayant un goût personnel, semble-t-il, pour la couleur verte. On a la chance d'avoir un certain nombre de témoignages. Néron aime s'habiller de vert, ce qui fait scandale. Il aime collectionner les émeraudes, pierres vertes superbes. Suétone nous dit d'ailleurs que pour reposer son regard, lorsqu'il voit des combats de gladiateurs dans les jeux du cirque, de temps en temps, il pose son regard sur une émeraude de grande taille. Ça apaise les yeux. Et puis Néron est connu aussi pour être un grand amateur de poireaux. Il prétendait avoir une voix magnifique de chanteur et d'acteur, et pour entretenir et reposer cette voix, il consommait énormément de poireaux. Et surtout, au jeu du cirque et à l'hippodrome, où s'affrontent des équipes bleues et vertes, contrairement aux habitudes des empereurs précédents qui soutenaient l'écurie bleue, lui soutient l'écurie verte.
Oui, parce que l'écurie verte est plutôt celle de la plèbe.
Voilà, alors que le bleu, c'est plutôt les patriciens et l'entourage impérial. Néron, il est démagogue et il flatte la plèbe en soutenant à l'hippodrome les chars verts.
Oui, on découvre à cette occasion qu'il était souhaitable souvent que l'équipe des chars verts l'emporte, car sinon la colère ou la déception de la plèbe pouvait déboucher sur des affrontements extrêmement violents.
Voilà, à Rome, sous l'Empire, à l'hippodrome, des factions s'opposent, pas seulement sur la piste, mais dans les tribunes et autour de l'hippodrome. On passe de la compétition sportive à la politique, et ça va continuer dans la Byzance du haut Moyen-Âge. L'hippodrome et la politique entretiendront des rapports étroits, et deux factions vont continuer à s'emblématiser par le bleu et par le vert, jusqu'à une date fort avancée dans le premier millénaire.
Ensuite, on va en arriver à l'époque chrétienne. Alors, vous nous dites que la Bible originelle ne fait que très peu référence aux couleurs.
Oui, quand on parle de la Bible, il faut savoir à quel état du texte l'on a affaire au fil des siècles, en effet, et des traductions. La Bible a tendance à se colorer de plus en plus. Dans les premières versions qui nous sont connues, les livres qui sont soit en araméen, soit en hébreu, soit en grec, comportent très peu de termes de couleurs, et quand ils existent, se limitent à trois couleurs, le rouge, le blanc et le noir. Et puis avec les premières traductions latines, puis la Vulgate, puis plus tard les premières traductions en langue vernaculaire, on a l'impression que des adjectifs de couleur prennent la place d'autres adjectifs qui n'évoquaient pas la couleur, mais telle ou telle qualité. Par exemple, quand le grec dit « pâle », le latin va traduire, en effet, « viridis », va introduire du vert là où il n'y en a pas. Quand l'hébreu dit « sale », le latin va introduire « niger », c'est-à-dire « noir ». Quand l'araméen dit « une belle étoffe », le latin va dire « purpureus », c'est-à-dire une étoffe de pourpre ou une étoffe écarlate, comme on trouve dans les traductions modernes. Donc, au fil du temps, la Bible a tendance à être de plus en plus colorée, mais quand même en prenant les versions les plus modernes et en faisant un bilan par couleur, on s'aperçoit que rouge, blanc, noir dominent, jaune est plus rare, vert se limite à ce qui est végétal, et le bleu est totalement absent de la Bible.
Et dans la vie liturgique ?
Dans la vie liturgique, les choses se mettent en place lentement, notamment le système des couleurs liturgiques. Au début du christianisme, le prêtre garde ses vêtements de tous les jours pour officier, puis peu à peu il prend des vêtements spécifiques, notamment le blanc qui est associé aux grandes fêtes, Pâques et d'autres fêtes. Puis à partir de l'époque carolingienne, on commence à voir apparaître dans certains diocèses l'idée qu'il faut associer le décor coloré du jour et les vêtements du prêtre avec la fête du jour. Mais les usages varient beaucoup d'un diocèse à l'autre. Il faut attendre le XIIe siècle pour qu'il y ait une tendance à l'unification à l'échelle de la chrétienté romaine, avec l'idée que ce qui vaut pour le diocèse de Rome doit valoir pour toute la chrétienté romaine. C'est notamment l'opinion du futur pape Innocent III, qui, quand il était jeune, avait écrit un traité sur la messe. Il recommandait de prendre les usages romains dans tous les diocèses dépendant du pape. Et il explique comment on fait dans le diocèse de Rome, à la veille de son propre pontificat. Le blanc pour les fêtes du Christ et de la Vierge et les fêtes les plus solennelles de l'Église. Le rouge pour les fêtes de l'Esprit-Saint et de la Sainte-Croix, et également pour les fêtes des martyrs. Le noir pour les messes des défunts, le vendredi saint, les temps d'affliction et de pénitence. Et précise-t-il, et c'est très très intéressant, pour les jours où ni le rouge, ni le blanc, ni le noir ne conviennent, on choisira le vert, parce que le vert est couleur moyenne entre blanc, rouge et noir. Et donc, pour les jours ordinaires, donc, on choisit comme couleur liturgique le vert. C'est encore cet usage qui a cours dans le culte catholique aujourd'hui.
Il faut peut-être préciser, comme vous le faites dans votre ouvrage, que la couleur moyenne, ce n'est pas du tout un jugement négatif. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de caractère. C'est plutôt associé justement à la qualité de tempérance, très, très, très en vogue et valorisée à cette époque.
Oui, tempérance, humilité, pas d'excès. C'est intéressant aussi de noter que le futur Innocent III, qui est quand même le plus grand pape de toute l'histoire de l'Église, pense le système des couleurs liturgiques comme un triangle avec trois pôles, rouge, blanc, noir, et au milieu du triangle, en quelque sorte, le vert, ce qui est plutôt positif pour la couleur verte. On peut noter aussi que dans ce système des couleurs liturgiques, il n'y a pas de place ni pour le jaune, ni pour le bleu.
Cette époque est donc celle du Moyen-Âge, dont vous nous dites qu'elle est la période de promotion inédite du vert dans la culture occidentale. Comment l'explique-t-on au-delà du rôle dans la liturgie ?
Oui, l'Église, par ce système des couleurs liturgiques, en fait se rattache à un courant qui valorise la couleur verte au lendemain de l'an 1000. Ça va être la couleur de la courtoisie, de la chevalerie, la couleur de cette espèce de pré-romantisme, je mets l'expression entre guillemets, qui habite la poésie, la littérature, l'amour courtois. Le vert est une couleur courtoise, souvent d'ailleurs associée au rouge, et ça va être la couleur de la jeunesse, de l'amour naissant, du badinage amoureux, qui souvent se déroule dans un cadre vert, sous un arbre, sur l'herbe, à côté des buissons, non loin de l'eau, etc. Et nombreux sont les poètes au XIIe et XIIIe siècle qui, avec un lyrisme qui leur est propre, chantent cet amour des jeunes gens. Le réveil du printemps, le renouveau de la nature. L'ancien français a un mot particulier pour décrire ce début du printemps, la reverdie, tout reverdie, pas seulement la végétation, mais aussi les cœurs, les sentiments et les petits oiseaux, par exemple. Donc, ça valorise beaucoup la couleur verte. Ce Moyen-Âge central est une période où le vert est plus souvent pris en bonne part qu'en mauvaise part, spécialement dans le milieu aristocratique.
Mais vous dites d'ailleurs que dans les calendriers de l'époque, la plupart des saisons sont représentées par des travaux des champs, alors que le printemps, lui, est représenté par de jeunes aristocrates qui badinent ou qui se livrent à la galanterie.
Voilà, c'est le moment où, après avoir été un peu enfermé pendant l'hiver, on sort, la nature se réveille. Les hommes, les femmes, les enfants, les animaux aussi sont de sortie et on va se promener à travers les bois et les champs. C'est la période la plus heureuse. Et à la gloire du printemps, il y a de très très nombreux textes et par une sorte d'ironie du lexique, le mot latin pour désigner le printemps, c'est ver, V-E-R. Sans aucun rapport étymologique, semble-t-il, avec Viridis. Mais quand même, il y a un lien étroit entre le vert et le printemps. D'ailleurs, au Moyen-Âge, chaque saison a sa couleur. Le printemps est vert. L'été est souvent rouge. L'automne est soit noir, soit jaune. Enfin, il y a deux automnes. Premier automne jaune et un deuxième automne noir. Et puis l'hiver est soit noir, soit blanc.
Puisqu'on parlait du lexique, il y a un mot charmant que j'ai découvert, c'est celui d'avrilé. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? C'est très beau comme mot, avrilé.
Avrilé, mais c'est la même idée que reverdir, au fond, c'est-à-dire réveil de la nature, réveil des sentiments, passer du dedans vers le dehors et se comporter avec cette joie de la bonne saison retrouvée, et ça peut aller jusqu'à un certain dévergondage, en tout cas du côté des sentiments amoureux, le badinage, le flirt, comme nous dirions aujourd'hui, et puis l'humeur est joyeuse et on fait des plaisanteries, on se promène au verger, bref, c'est la plus belle période de l'année.
Et on plante l'arbre de mai.
On plante l'arbre de mai, fin avril ou début mai, qui est riche d'espérance. D'autant plus que nous sommes dans une société, celle de l'Europe occidentale au Moyen-Âge central, qui a horreur des grandes chaleurs et donc qui n'aime pas autant l'été que nous apprécions l'été. On redoute peut-être même plus les grandes chaleurs que les grands froids au Moyen-Âge. Donc le printemps, c'est ni trop ni trop peu, et le début du printemps, c'est vraiment une période de grande réjouissance.
Alors le vert, on le comprend, donc la couleur de l'adolescence, de la jeunesse, de l'espérance, de la fertilité. Mais alors tous ces caractères contiennent aussi peut-être déjà leur contraire. La jeunesse est destinée à passer, on est vert, mais ensuite les saisons passent, les cycles, et donc le vert porte-t-il en lui-même son contraire, sa propre mort, son retournement ?
Oui, c'est exactement cela. Le vert, ça n'est pas tant la couleur de la nature que la couleur de tout ce qui tourne, tout ce qui change. Vous l'avez dit, l'enfance, l'espérance, l'amour, la chance, la fortune, l'espoir, tout ça, c'est bien, c'est pris en bonne part, mais ça ne dure pas. L'enfance ne dure pas, l'amour ne dure pas, la chance, ça ne dure pas. Donc c'est comme la roue de la fortune, et ça va tourner, et le vert va être aussi la couleur de la malchance, désespoir. Et on peut dire que, si on fait un bilan symbolique de ces fonctions, c'est la couleur, au fond, du destin, de la destinée. C'est peut-être encore plus fort que tout le reste. Et ça explique pourquoi, un peu plus tard, le vert va être la couleur du jeu, la couleur du hasard, les tapis sur lesquels on joue au dé ou aux cartes, dès le XVIe siècle, sont verts, dans ce qui est les ancêtres de nos casinos, par exemple. La langue verte va être la langue des joueurs de cartes, en France, à partir du XVIIe siècle. Sur une surface verte, il y a... Et il y aura, jusqu'à aujourd'hui, presque l'enjeu d'une partie, que ce soit un duel ou une ordalie au Moyen-Âge qui se déroule sur le pré, comme un tournoi, comme une joute, ou bien comme nos tables de ping-pong aujourd'hui, qui pourraient très bien ne pas être vertes, mais qui sont vertes parce que il y a un enjeu, il y a une partie qui se déroule, comme sur les terrains de sport, qui sont verts pour les mêmes raisons, mais aussi parce que l'herbe amortit les chutes, bien sûr. Mais la table de ping-pong, elle, il n'y a pas de chute, et pourtant elle est verte. Ça vient de très très loin, et en tout cas au moins du Moyen-Âge central, ce lien entre la couleur verte et le jeu, l'enjeu, la partie qui se déroule, le destin qui se joue. Ça va aujourd'hui jusque au destin du personnel d'une entreprise. Les décisions prises par les conseils d'administration sur le tapis vert, comme on dit, engagent toute l'entreprise et son personnel.
Et c'est ce qui explique peut-être que dès le XIVe siècle, il y a une sorte de basculement où la bonne part cède quand même davantage la place à tous ces aspects inquiétants. Vous nous dites que ça devient une couleur dangereuse. Comment cela se matérialise-t-il dans l'art ou la vie de tous les jours ou la littérature ?
C'est vrai, à la fin du Moyen-Âge, le vert a tendance à se dévaloriser et les mauvais aspects du vert deviennent plus fréquemment mis en scène que ses bons aspects, à commencer par l'iconographie, qui fait du diable un personnage qui autrefois était noir, rouge, rouge et noir, un personnage souvent vert ou verdâtre, plus encore d'ailleurs que le diable lui-même, les créatures du diable, les démons, les êtres étranges, les ancêtres de petits hommes verts, il y en a beaucoup à la fin du Moyen-Âge, les sorcières elles-mêmes ont des dents vertes, des robes vertes, parfois des cheveux verts, et puis... il y a chez les peintres une méfiance de plus en plus grande envers la couleur verte. C'est peut-être d'ailleurs cela qui explique ce discrédit de la couleur, qui est une couleur qu'on a du mal non pas à fabriquer en peinture et même en teinture, mais à stabiliser. Le vert est une couleur qui ne tient pas. Et parfois, quand on emploie des produits comme ce que nous appelons le vert de gris, c'est-à-dire un cuivre oxydé, ça donne de très beaux verts en peinture, bon marché, mais qui sont corrosifs, qui attaquent le support, qui attaquent les couleurs voisines, et puis qui évoluent, et notamment noircissent, au fil du temps. Donc il y a l'idée que le ver est trompeur, qu'il est instable. Et il est associé progressivement à tout ce qui relève de l'instabilité. On l'a dit d'ailleurs, l'enfance, la jeunesse, l'amour, l'espérance, tout ça c'est instable. Donc le ver est instable et du point de vue des matières colorantes, c'est vrai qu'il est aussi instable. Donc en historien, je me pose le problème des rapports entre la symbolique et la chimie. Qu'est-ce qui a précédé ? Est-ce que c'est d'abord la chimie qui a entraîné des mutations symboliques ? Ou est-ce que ça marche dans l'autre sens ? Je ne sais pas.
Zut, je vais vous demander. Pardon. Oui, le ver est versatile, finalement.
Le ver est versatile, voilà, si l'on voulait faire un jeu de mots qui ne marche qu'en français, mais c'est exactement l'idée qui domine à la fin du Moyen-Âge et encore au début de l'époque moderne. On ne peut pas faire confiance au ver. Il est instable, il va nous tromper, il va tourner sa veste, en quelque sorte.
Alors tout ça est bien sympathique, mais ça aboutit parfois quand même à des superstitions qui peuvent être, j'imagine, un petit peu pénibles, notamment pour les gens et les jeunes femmes qui ont les yeux verts. Car si aujourd'hui, les yeux verts sont extrêmement valorisés, tout le monde songe, je sais pas, à Jane Fonda, par exemple, à l'époque, c'est le signe d'un caractère également versatile, porté vers la chair, la duplicité.
Voilà. La physiognomonie étudie beaucoup les couleurs du corps, cheveux, peau, yeux, et en tire des traits de caractère. Et avoir les yeux verts, à la fin du Moyen-Âge, au début de l'époque moderne, surtout pour une femme, c'est très très dévalorisant, c'est signe d'un tempérament faux, trompeur, vicieux, séducteur, mais dans le mauvais sens de la séduction. Yeux verts, yeux de vipère, disait-on encore quand j'étais enfant dans les cours de récréation. Donc c'est un grand changement pour la couleur verte, notamment dans ses rapports avec les femmes, puisque à l'époque précédente, au Moyen-Âge central, le vert couleur d'espérance était souvent la couleur de la chambre nuptiale, et la jeune épousée dormait avec son mari dans une chambre verte, on a plusieurs témoignages en milieu princier pour le XIIIe siècle, afin que cela favorise la procréation et que le couple ait de nombreux enfants. À la fin du Moyen-Âge, c'en est fini de ce ver de l'espérance, il se fait beaucoup plus discret, et les mauvais vers ont pris le dessus.
On sent que tout au long de l'histoire, d'ailleurs, il y a une morale des couleurs qui évolue, donc montre son caractère parfois peut-être un peu arbitraire malgré tout, ou lié à l'idée que l'on se fait, notamment de ses caractéristiques techniques, mais en tout cas c'est le fil rouge, mais peut-être est-ce encore le cas aujourd'hui, mais sans que nous en ayons conscience.
Oui, c'est surtout le domaine où l'historien a le plus de prise, les rapports entre couleurs et société. Là, l'historien peut essayer de construire une histoire des couleurs, donc à partir du vocabulaire, des faits de langue, des pigments, des colorants, du vêtement, qui est le grand code de coloré de la vie en société, mais aussi, en effet, des étiquettes, des emblèmes, des symboles, des proverbes, des superstitions. L'historien a prise, et dès qu'il s'attaque à des problèmes plus affectifs, esthétiques, poétiques, là, la couleur est un peu rebelle à l'analyse. Donc, en effet, on peut mettre en valeur les bons ou les mauvais aspects d'une couleur à telle ou telle époque, non pas les aspects symboliques ésotérisants, mais les aspects symboliques de la vie quotidienne qui concernent une large partie de la population. Et donc, à l'époque moderne, en effet, le vert a mauvaise réputation.
Alors, ce qui est très étonnant aussi, c'est de découvrir que même dans les époques où le vert est extrêmement valorisé, il est absent, totalement, quasiment absent, ou quasi totalement absent, des blasons, de l'héraldique. Comment expliquer cela ?
Oui, moi qui suis spécialiste des armoiries, depuis 50 ans, je m'interroge sur, non pas l'absence, mais l'indice de fréquence moins grand de la couleur verte, sinople en français, dans la langue du blason. Pourquoi y a-t-il moins de sinople que d'or, d'azur, d'argent, de gueule ? Est vraiment un indice de fréquence beaucoup plus bas, alors que pour le rouge, c'est 50% des armoiries médiévales, pour le blanc aussi, le jaune 40%, le bleu et le noir autour de 25-30%, le vert c'est autour de 5%, donc on est vraiment très très loin. Je ne vois pas d'explication autre que matérielle, faire teinture ou peinture verte, c'est toujours un exercice un peu difficile. ou bien expliquer que la mise en scène des armoiries et des décors et rituels héraldiques se déroule dans un environnement vert. Le tournoi, par exemple, c'est un jeu de plein air au milieu de la nature, avec pelouse, herbes, buissons, arbustes. Donc il y a un environnement tout vert, et pour que les armoiries se voient bien, au début en tout cas, 12e, 13e siècle, peut-être qu'on a évité cette couleur qui pouvait se confondre avec celle de l'environnement végétal. Ça ne me satisfait pas complètement, mais c'est une piste. C'est une piste. Ou alors, est-ce qu'il y a des explications plus fortement symboliques, une méfiance envers le vert? Ce serait vrai à la fin du Moyen-Âge, mais ça n'est pas vrai quand apparaissent les armoiries dans le courant du 12e siècle. En tout cas, ce faible indice de fréquence, qui n'est pas absence, seulement rareté, va durer jusqu'à l'époque contemporaine. Dans les armoiries, il y a toujours moins de vert que d'autres couleurs.
Alors, s'il y a bien une époque, semble-t-il, où le vert, mais peut-être aussi les autres couleurs, sont rejetées en enfer, c'est l'heure de la réforme protestante.
Voilà, les grands réformateurs protestants sont de grands chromophobes. Ou plutôt, ils moralisent les couleurs et ils distinguent des couleurs honnêtes et des couleurs qui ne le sont pas. Pour un bon chrétien, mais aussi pour un bon citoyen. Calvin, à Genève, par exemple, légifère en matière de vie quotidienne, de vêtements, etc. Et donc, les couleurs honnêtes pour ces grands réformateurs protestants du XVIe siècle sont le blanc, le noir, le gris et le bleu, qui a la chance d'être dans le bon groupe. D'ailleurs, Calvin avait lui-même un goût personnel pour le bleu. Et les couleurs immodestes dont il faut se dispenser, spécialement dans le vêtement, sont le vert, le jaune et le rouge, couleur papiste. Donc trois couleurs qui sont jugées trop voyantes, immorales, indécentes, combattues à Genève, par exemple. Dans les années qui suivent la mort de Calvin, il ne fait pas bon d'être pris en habit rouge. Ça peut être la peine de mort. Alors pour le vert, ça n'est pas aussi grave, mais quand même, c'est une couleur que les protestants jugent déshonnête. Et ça n'a l'air de rien, mais ça va avoir des conséquences de longue durée sur la vie quotidienne et sur les pratiques vestimentaires, parce que sur ce point-là, la contre-réforme catholique reprend une partie des valeurs protestantes, pas pour ce qui concerne le culte ou l'art, mais pour la vie quotidienne, le commun des mortels. Oui, c'est vrai que blanc, noir, gris, c'est quand même plus digne et moins indécent que des couleurs vives comme le rouge, le jaune ou le vert.
C'est peut-être au-delà de la réforme, c'est peut-être effectivement un débat qui traverse toute la chrétienté. J'imagine que les ordres mendiants qui voulaient revenir au message évangélique originel et autres ne devaient pas être non plus en faveur de vêtements très voyants. Et même auparavant, vous citez donc les débats dans la Rome antique entre ceux qui étaient tenants de l'ordre chromatique ancien et les nouveaux qui étaient rejetés comme, je ne sais pas, peut-être à certaines périodes, les tenants de l'art contemporain aujourd'hui. Comment cela se déroule-t-il et évolue-t-il après la réforme?
Oui, ce sont des phénomènes de longue durée. La réforme elle-même est héritière sur ce plan-là de morale médiévale, de la couleur, qu'on voit déjà dans les décrets vestimentaires des 14e et 15e siècles. Puis en amont, on trouve d'autres phénomènes, les lois somptuaires, par exemple, ne pas trop dépenser pour des couleurs qui coûtent trop cher parce que ce sont des investissements jugés improductifs. Et on peut remonter comme cela, en effet, jusque dans la Rome antique, où il y a déjà sous la République des lois qui légifèrent contre le luxe, contre les vêtements voyants, les dépenses trop chères, notamment celles des femmes. La loi Oppia, par exemple, on est très tôt, hein, on est au tournant des 3e, 4e siècles avant notre ère. C'est une loi contre les vêtements trop chatoyants, trop riches, les parures des femmes romaines. Donc, c'est un phénomène de longue durée qui va perdurer par la suite jusqu'à aujourd'hui, comme vous le dites très justement. Il y a toute une partie de la population aujourd'hui qui pense que c'est immoral, sinon indécent, de se faire remarquer par un vêtement soit trop riche, soit qui tranche avec le vêtement du commun des mortels, qui n'est pas de circonstance, qui est modeste, et donc les couleurs trop vives font parfois scandale, sauf en certains lieux. Il y a des lieux pour se faire. La plage, par exemple, c'est presque le contraire. Apparaître en costume tout gris sur une plage, c'est presque un scandale. Sur une piste de ski, on a le droit d'avoir des couleurs très très vives. Mais enfin, notre société, contrairement à ce qu'on pourrait croire, reste très morale en matière de couleurs. Et quand on prend le métro, par exemple, et qu'on regarde comment sont habillés les voyageurs, on est sidéré de cette absence du vert et du jaune et de l'extrême discrétion du rouge. Donc on peut y voir un phénomène de longue durée qui exerce encore ses conséquences aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, précisément, notre rapport au vert, où en est-on, où en est la couleur dans la société, et nous, comment nous positionnons-nous par rapport, positionnons-nous par rapport à elle ?
Alors le vert s'est revalorisé en plusieurs étapes à l'époque moderne et contemporaine. C'est d'abord le romantisme, ou plutôt le pré-romantisme, qui donne un coup de pouce au vert positif en célébrant les promenades dans la nature, les rêveries à la Jean-Jacques Rousseau. Donc le vert et le bleu aussi, ce premier romantisme les met sur le devant de la scène. Puis ça va continuer pour le vert, surtout dans une société qui, à l'époque de la révolution industrielle, souffre de la noirceur ou de la grisaille des villes. On commence à introduire dans les villes, dans la seconde moitié du 19e siècle, et spécialement les grandes villes, des espaces verts. On crée des jardins publics, on crée des coulées vertes pour aller vers la banlieue et au-delà. Ça continue au XXe siècle avec toutes sortes de zones vertes, classes vertes, espaces verts, etc. Et puis, à des dates plus récentes, l'écologie politique s'est emparée de la couleur verte et on a fait non seulement son emblème politique, au point que dans plusieurs pays d'Europe, on dit pour un parti politique les Verts, ceux qui défendent ces idées écologistes, environnementale, et ainsi de suite. Et c'est parfois à un point tel qu'on a l'impression que nos sociétés contemporaines, du moins en Occident, confient à la couleur verte la mission, au fond, de sauver le monde. La planète est en train de crever des excès de l'être humain, de la pollution. Le vert va sauver cette planète, en tout cas, c'est ce que l'on espère. Donc on met le vert à toutes les sauces. Parfois, c'est grotesque. Moi, j'ai observé des grandes firmes qui polluent beaucoup, qui ont changé la couleur de leur logo pour montrer qu'elles étaient dans le courant d'opinion dominant. Par exemple, un grand M qui était sur un fond jaune est devenu un grand M sur fond vert pour une firme de fast-food bien célèbre, et ainsi de suite. Donc, c'est excessif et surtout, ça confisque la couleur au profit d'une idéologie, un peu comme il y a quelques décennies, le rouge était confisqué par un mouvement politique, la gauche, l'extrême gauche, les forces progressistes. On ne pouvait plus dire « j'aime le rouge » sans tout de suite être assimilé à un communiste.
Aujourd'hui, un rouge.
Un rouge, voilà, le vocabulaire était là pour le dire. Et aujourd'hui, si je dis « j'aime le vert », tout de suite on pense qu'on a des idées écologiste, alors que ça peut être tout à fait pour d'autres raisons qu'on aime la couleur verte. En soi, c'est un mouvement assez intéressant à étudier pour l'historien, mais ça réduit un petit peu le champ d'intervention de la couleur verte.
Mais en même temps, on y retrouve des tas de choses qui étaient dans la symbolique. C'est-à-dire, le vert, c'est un peu médicinal, c'est le printemps, la nature. Bien évidemment, c'est pas du tout du au hasard.
Non,
si
bien
ça fonctionne,
sûr,
c'est que ça fait appel à un imaginaire.
C'est un héritage, en effet, vous avez raison. Le vert, c'est la vigueur, c'est la santé, c'est l'espérance. C'est la vie, c'est la couleur de la vie, et surtout de la vie qui tourne, comme la roue de la fortune, nous l'avons dit tout à l'heure.
En revanche, ce n'est plus le vert de la licence. Le vert écologiste est plutôt dans l'injonction de ce qu'il faut faire, une idée de conformité de comportement alors que s'attacher au vers originel aussi l'idée de transgression. On n'est plus du tout dans la transgression. Vous dites à un moment que c'est un vers assagi.
C'est un vers très assagi par rapport à ce qu'il a été dans les siècles passés où il y avait un lien entre le vert et le désordre, en tant que couleur à la fois de la jeunesse, des amours naissantes ou des amours quelque peu transgressives, adultères en tout cas. Le vert, c'était pas l'ordre établi. Puis, à l'époque romantique, quand le vert devient la couleur de la liberté en marche, à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, c'est aussi un vers qui se dresse contre un certain ordre bien installé. Tout ça, en effet, c'est assagi, à moins que l'on voit les polémiques récentes autour du comportement d'un des chefs des groupes écologistes du point de vue de ses rapports avec les dames, comme un écho à ce vers des XIIe et du XIIIe siècle.
Oui, un vers galant.
Un vers galant, voilà, qui est le surnom d'Henri IV. Et quand on dit d'un homme d'un certain âge qu'il est encore bien vert, ça veut dire qu'il a encore en lui une certaine jeunesse et beaucoup de sève. Donc ça, c'est une idée qui traverse les siècles. Il y a dans le vert de la vigueur, de la sève, de la vie qui monte et puis qui se transforme. Et il y a encore, j'espère, pour le vert, beaucoup d'espérance.
Merci beaucoup Michel Pastoureau. J'invite tous nos auditeurs qui voudraient découvrir cette histoire du vert et ne plus jamais regarder un quelconque vert de la même façon, découvrir tout ce qu'il peut porter en lui d'ambivalence, de valeur et d'écho à l'histoire, à se plonger dès que possible dans votre ouvrage Histoire d'une couleur, Vert, Histoire d'une couleur, aux éditions du Seuil. Je précise que c'est un livre par ailleurs magnifiquement illustré, et je vous donne rendez-vous, Michel Pastoureau, ainsi qu'à nos auditeurs, pour la sortie prochaine du prochain volume de votre histoire des couleurs, qui sera donc consacré, si je ne me trompe pas, au rouge.
Voilà, rouge, histoire d'une couleur, le quatrième de la série, devrait paraître, toujours aux éditions du Seuil, au mois d'octobre prochain.
Eh bien, nous sommes impatients. Merci beaucoup.
Merci de votre accueil. Thank you.